commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour, Accent d'Europe sur RFI. Aujourd'hui, nous prenons pour commencer la direction de Strasbourg. La semaine dernière, le Parlement européen y a voté à une écrasante majorité une résolution sur les ingérences étrangères à quelques semaines seulement des élections européennes du 9 juin. Cette résolution appelle à la vigilance et à la fermeté face à la multiplication des scandales. Entre corruption et espionnage et opérations d'influence, Accent d'Europe a voulu faire le point avec vous, Jean-Jacques Herry. Vous êtes l'un de nos correspondants à Bruxelles. Alors il y a des accusations visant le Qatar, la Chine, des lobbies industriels. Mais évoquons d'abord ce Russia Gate qui concerne la Russie. Donc de quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien il s'agit tout simplement de corruption d'hommes politiques européens et d'eurodéputés. Selon les affirmations du Premier ministre belge, plusieurs élus au Parlement européen auraient accordé des interviews à un média, un site internet pro-russe, Voice of Europe, basé en République tchèque. Et en échange, ils auraient reçu de l'argent pour faire, dans ces interviews, la promotion des idées du Kremlin, notamment pour tenir un discours négatif sur l'aide européenne accordée à l'Ukraine. Et l'idée, c'est que ces vidéos soient ensuite reprises et diffusées en masse sur les réseaux sociaux. La presse allemande et tchèque avance que des élus de 6 pays différents auraient reçu des pots de vin, à savoir des députés polonais, hongrois, allemands, français, belges et néerlandais. Alors, à quoi ça sert d'acheter un élu au Parlement européen ? J'ai posé la question à Jean Comte, journaliste à Bruxelles et spécialiste des affaires européennes depuis 10 ans.
Ce n'est pas seulement défendre la Russie, c'est aussi qui critique de l'intérieur la position européenne par rapport à l'Ukraine, pour essayer de diviser, d'affaiblir le soutien européen à l'Ukraine. C'est à la fois surprenant parce que voilà, on parle de corruption pure et dure, de députés, ce qui est comme, malgré le Qatargate, quelque chose d'assez rare. C'est pas très surprenant dans la mesure où les députés qui, semble-t-il, ont été concernés sont des gens qui, dans tous les cas, avaient déjà des positions pro-russes et qui peut-être auraient défendu des positions relativement proches sans avoir été payés.
Tous les regards se tournent en effet vers l'extrême droite de l'hémicycle. Nathalie Loiseau est députée européenne Renaissance.
On voit beaucoup dans les partis d'extrême droite du Parlement européen une complaisance vis-à-vis de la Russie, une ambiguïté vis-à-vis de la Russie, que la guerre d'agression russe en Ukraine n'a pas vraiment changé si on regarde les votes des uns et des autres.
Ainsi, et toujours selon la presse tchèque, un élu fédéral allemand de l'AFD, Peter Bistron, deuxième sur la liste de son parti pour les prochaines élections européennes, est soupçonné d'avoir touché 25 000 euros de Moscou après une interview pour le média Voice of Europe, ce qu'il dément.
Alors Jean-Jacques, on entend beaucoup parler de naïveté européenne lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, voire d'espionnage au sein des institutions. Qu'en est-il exactement ?
Eh bien, c'est vrai que ce que l'on découvre semble parfois ahurissant. On en a encore eu un exemple la semaine dernière avec l'arrestation de l'assistant parlementaire d'un eurodéputé allemand de l'extrême droite, là encore, puisqu'il s'agit d'un élu de l'AFD. Là, il ne s'agit plus de la Russie, mais de la Chine. L'assistant parlementaire arrêté aurait ainsi été employé par les services secrets de Pékin pour espionner des opposants chinois en Allemagne et il aurait partagé des informations sur le Parlement européen avec un service de renseignement chinois. Le journaliste Jean Comte n'est pas vraiment surpris au regard de ce qui a pu arriver par le passé.
Quand on est embauché comme assistant parlementaire, il n'y a pas des checks de sécurité extrêmement solides. Et donc, en effet, on avait soupçonné des proches d'oligarques d'avoir été embauchés comme assistant parlementaire. C'était assez évident qui ils étaient, mais voilà, quoi, il n'y avait pas de procédure pour empêcher ça.
Le journaliste précise toutefois que même si les assistants parlementaires sont au cœur de la machine européenne, ils n'ont pas accès aux informations les plus stratégiques, mais, reconnaît l'eurodéputée Nathalie Loiseau, il y a quand même un vrai problème au niveau des habilitations de sécurité, notamment pour les conseillers.
Quand vous pensez que dans le groupe où siège l'extrême droite, vous avez des conseillers, des assistants ou des stagiaires russes, on en reste sans voix. À partir du moment où il y a cette latitude pour recruter, il faut qu'il y ait au moins des habilitations de sécurité quand nous travaillons à des sujets particulièrement sensibles.
Qatargate, Russiagate et peut-être bientôt Chinagate. Donc, dans ce contexte très trouble pour le Parlement européen, j'ai demandé à l'eurodéputée, également présidente de la sous-commission sécurité et défense, si cela avait une influence dans son travail d'élu au quotidien. Elle m'a confié prendre ses précautions.
Je soupçonne personne a priori, mais au moment du confinement, Parlement, il a fallu mettre en place une pratique consistant à demander aux députés qui se connectaient en ligne à des réunions confidentielles d'allumer leur caméra pour que nous puissions vérifier que c'était bien eux. Et quand vous avez un même député qui se connecte 5 fois sur la même réunion et qu'au moment d'allumer la caméra, brutalement, les 5 se déconnectent, c'est que ça n'était pas le député.
Aujourd'hui, elle semble avoir pris conscience du problème. Quelles sont les marges de manœuvre de l'Union européenne ?
Alors concernant le Parlement, après le Qatargate, il y a une réforme qui poussait pour plus de transparence et d'éthique, avec l'obligation de mieux déclarer d'éventuels conflits d'intérêts. Et puis plus spécifiquement, les députés sont désormais tenus de déclarer leurs rendez-vous avec des représentants de pays tiers. Leur patrimoine aussi doit être déclaré en début et en fin de mandat, ce qui permet de mieux déceler une éventuelle corruption. Et enfin, dans le cadre des élections européennes, une task force vient d'être mise en place contre les ingérences étrangères. Y siègent des représentants de la Commission européenne, du Parlement, du Service européen pour l'action extérieure. L'idée sera d'agir mieux et plus vite contre les tentatives de désinformation venues de l'étranger dans le but d'influencer le scrutin. L'outil sera en place jusqu'à la fin des élections prévues du 6 au 9 juin prochain.
Merci Jean-Jacques Héry, l'un de nos correspondants à Bruxelles. Nous allons en Moldavie à présent, ce petit état de 2,5 millions d'habitants coincé entre l'Union européenne et l'Ukraine, candidat à une adhésion prochaine à l'UE. Dans sa situation singulière, la Moldavie est une terre de prédilection pour les opérations de propagande et de déstabilisation auxquelles est habituée la Russie. Dans cette ancienne république soviétique, en effet, on trouve de nombreux partis pro-russes, mais aussi une région indépendantiste, la Transnistrie, et une région autonome, la Gagaouzie, toutes deux dans la sphère d'influence russe. Ajoutez à cela des campagnes de désinformation multiformes sur Internet et un bouquet de chaînes de télévision favorables à Moscou, et vous aurez un cocktail explosif. C'est un reportage en Moldavie de Frédéric Lebec.
Orhei est une petite ville paisible de 20 000 habitants à 50 km de la capitale. Ici, les routes sont très bien entretenues. Il y a même un grand parc d'attractions colorées, Orhei Land, qui fait la fierté des habitants. Tout cela, c'est l'œuvre de l'ancien maire, Ilan Shor, personnage sulfureux s'il en est, condamné à 15 ans de prison pour une fraude bancaire d'$1 milliard. Il est depuis en fuite en Israël. Un des rares opposants au conseil municipal, Sergio Aga, estime que les électeurs ont été trompés et achetés.
Ce parc, c'est une vitrine pour le reste du pays, pour mettre en avant la gestion de la ville. Avec de l'argent, on endort la conscience de l'ensemble de la population. C'est une sorte de stratégie basée sur du pain et des jeux. Panem et circenses, dit le proverbe latin, et les autorités locales en font un usage intense.
La petite ville d'Orhei cache bien son jeu. Ilan Shor est un oligarque pro-russe, marié à une chanteuse très connue, proche de Poutine. Difficile de ne pas voir la main de Moscou pour Sergio Aga.
Absolument, absolument. C'est un juif d'origine russe et son épouse vit à Moscou. Et si on regarde la manière dont a été gérée ici la crise des réfugiés ukrainiens, quand il fallait leur apporter de l'aide, les autorités locales, par exemple, ne se sont pas impliquées. Elles ont plutôt donné un point de vue à la soviétique sur la question avec l'aide de l'ambassade de Russie et de Biélorussie. Pour moi, c'est une guerre hybride.
Dans le parc quasi désert, les manèges sont à l'arrêt, faute d'argent pour les entretenir. Lydia promène sa petite fille Sabrina. Elle soutient coûte que coûte l'ancien maire pro-russe.
Il a beaucoup fait pour la communauté. Si vous vous promenez dans la ville, vous verrez que toutes les routes ont été refaites alors qu'on avait encore beaucoup de chemins de campagne. Oui, il nous manque, il a fait beaucoup pour nous. On peut dire ce qu'on veut, on dit qu'il a fait une énorme fraude bancaire, mais montrez-moi quelqu'un qui n'a pas volé. Ils ont tous volé. On a juste trouvé un bouc émissaire.
Mai încolo avem parca muia, încă nu s-a deschis, dar este și mai departe, este prelungire.
De retour dans la capitale, Chisinau, l'ombre du sulfureux Ilan Shor n'a pas disparu. Pour le politologue Arkady Barbarochier, l'ancien maire, brigand à ses heures, continue de tirer de nombreuses ficelles de la vie politique. Le premier parti qu'il a créé, le parti Shor, est aujourd'hui interdit, mais d'autres formations lui ont emboîté le pas.
Les partis de Shor ont un destin curieux. C'est un peu comme les dragons dans les contes moldaves. Quand on leur coupe une tête, il y en a trois autres qui réapparaissent. Il y a eu le parti Shor qui a participé aux législatives, puis il y a eu le parti de l'alternative et de la sauvegarde de la Moldavie, qui est aussi une émanation du parti Shor, puis le parti victorieux, enregistré en décembre dernier, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Puis on a Chance et Renaissance. Chance a été suspendue pour les dernières élections municipales, mais pas Renaissance.
Les tentatives de déstabilisation dépassent largement le cadre légal de la vie politique. Il y a un peu plus d'un an, la présidente Maya Sandu alertait sur une tentative de coup d'État fomentée à Moscou. Des diplomates russes qui ressemblaient fort à des espions ont été expulsés. Quant à l'information sur Internet, c'est un terrain miné. Petro Makovej dirige l'association de la presse indépendante. Comme beaucoup d'ONG subventionnées par l'Europe et les États-Unis, il scrute les fake news. Il a créé un site, Stop False. Lors des dernières élections municipales en 2023, l'intelligence artificielle s'est invitée de manière radicale.
Ça, c'est une vidéo deepfake. On voit Maya Sandu vêtue de noir et elle dit qu'elle est en deuil parce qu'on enterre aujourd'hui la démocratie en République de Moldavie. Elle dit dans la vidéo qu'elle donne sa démission et elle invite à voter pour un parti pro-russe. Tout cela est un fake créé avec l'intelligence artificielle.
À l'automne prochain, les Moldaves se rendront aux urnes pour les élections présidentielles et pour un référendum sur l'adhésion européenne. Un double scrutin à haut risque compte tenu du climat de désinformation sur les chaînes russes, interdites par le gouvernement. Elles ressurgissent sur Internet ou sur des chaînes régionales, comme en Gagaouzie, région autonome du sud du pays. Pro-russe.
Le principal message qu'on entend sur ces chaînes, c'est que la Moldavie ne sera pas acceptée au sein de l'Union européenne, que toute cette histoire de candidature, c'est une manœuvre orchestrée par l'UE et les États-Unis pour que l'opinion publique s'oppose à la Russie. On entend aussi que l'Union européenne n'aurait qu'un intérêt, utiliser les Moldaves comme force de travail bon marché. Nous ne serions que des serviteurs des Européens et jamais traités d'égal à égal.
Pour lutter contre l'immense machine de propagande russe, les ONG et l'Union européenne se mobilisent, mais le rapport de force est clairement déséquilibré. L'association de la presse indépendante a créé son compte Telegram il y a 15 jours. Son compte TikTok est toujours à l'état de projet.
Et retrouve tout de suite l'auteur de ce reportage, Frédéric Lebel. Bonjour.
Bonjour Léonard, bonjour à tous.
Alors, pourquoi est-ce que la Moldavie est une cible pour la Russie ?
Mais tout d'abord, comme on l'a dit, en raison de son histoire. C'est une ancienne république soviétique qui a acquis son indépendance en 1991. Mais à l'époque, deux régions ont clairement montré leur refus de quitter la sphère d'influence russe. Tout à l'est, la Transnistrie, 500 000 habitants, et où sont toujours stationnés 1500 soldats russes. La Transnistrie qui a son propre gouvernement, son propre passeport, et qui refuse de reconnaître l'autorité centrale de la capitale, Chisinau. Et une autre région aussi, la Gagaouzie, au sud du pays, qui a un statut différent. Elle a réintégré le giron national, mais c'est une région autonome. Les soubresauts de l'histoire sont complexes. La Gagaouzie abrite une minorité turcophone et orthodoxe. Son gouverneur, la gouverneure, s'appelle d'ailleurs la Bashkan. La Moldavie est aussi une région stratégique pour Moscou en raison de sa géographie. Le pays est enclavé entre la Roumanie et l'Ukraine, entre l'Union européenne et un pays en guerre. À l'est, l'essentiel de la frontière avec l'Ukraine se confond d'ailleurs avec la frontière de la Transnistrie. On peut imaginer aisément le potentiel de déstabilisation militaire si la guerre venait à s'intensifier à Odessa, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la frontière.
Alors malgré tout, c'est un pays qui se veut européen.
Oui, le pays a le statut officiel de candidat depuis juin 2022. Les négociations peuvent commencer, mais elles seront longues. En moyenne, cela prend 10 ans. La présidente Maya Sandu est une pro-européenne convaincue. C'est d'ailleurs symboliquement chez elle que le président français a choisi d'organiser en juin 2023 le deuxième sommet de la communauté politique européenne, ce grand forum européen réunissant 45 pays, tout un symbole. Reste à savoir si les grandes manifestations pro-européennes qui ont eu lieu dans la capitale vont se traduire concrètement dans les urnes à l'automne prochain lors du référendum sur l'adhésion à l'Europe. C'est un pari très risqué et la Russie cherche très clairement à empêcher le oui à l'Europe lors de cette consultation.
Mais comment ?
D'abord par la peur. Les Moldaves ont au fait de comparer leur situation à celle de leurs voisins ukrainiens. Comme eux, ils ont deux régions pro-russes et une volonté de rejoindre l'Union européenne. L'ampleur de la désinformation est sidérante en Moldavie. Le directeur de l'association de la presse indépendante m'expliquait en détail que, par exemple, 6 chaînes d'information russes ont été interdites sur le territoire moldave en 2022. Elles ont refait surface en 2023 sous un autre nom et ont été à nouveau interdites. En 2024, une autre chaîne russe a encore été interdite, donc 13 chaînes au total. Mais dans des régions comme la Transnistrie, il va sans dire que l'interdiction est inopérante. Et ailleurs, les talk-shows politiques se retrouvent sur le net ou dans le cas de la Gagaouzie sur des chaînes régionales. Donc face aux géants russes et à toutes les campagnes de désinformation, il faudrait peut-être opposer une campagne similaire, presque de propagande inverse. On en est encore loin. Sergio Aga, conseiller municipal d'opposition dans la ville d'Oreil, qu'on entend au début dans le reportage, qui a tout à fait conscience de l'enjeu de cette guerre hybride, me disait en me quittant « C'est bien que les médias français s'intéressent à ce sujet, c'est vraiment bien, mais je pense que c'est déjà trop tard. »
Merci Frédéric Lebel.
Europa.
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 À l'approche des élections européennes, le 9 juin, Accent d'Europe vous propose chaque semaine une série de portraits de jeunes Européens. Ils ont été rencontrés par nos partenaires du média 100% vidéo Enter, qui est le fruit d'une collaboration entre France Média Monde et Deutsche Welle, ainsi que d'une dizaine de médias européens. Cette semaine, on écoute Lorenz, un jeune Allemand de 17 ans. Il est très engagé dans la société civile écologiste et il s'inquiète de la place importante du parti d'extrême droite AfD, qui est aux prises avec de nombreux scandales, mais qui reste malgré tout assez haut dans les sondages. On l'écoute.
En novembre, le collectif journalistique Corrective a publié un reportage sur des députés de l'AfD. Ils s'étaient réunis pour discuter d'un projet d'expulsion des étrangers d'Allemagne. Comme Fridays for Future dispose d'un réseau important en Allemagne, les groupes locaux ont eu la possibilité de s'organiser et de former des alliances. Et c'est à ce moment-là que les manifestations ont commencé et elles ont eu un énorme succès. À Munich, nous étions une fois plus de 300 000 personnes et l'autre fois aussi plus de 100 000 personnes. C'était vraiment génial. En tant que citoyen européen et en tant que membre de l'Union en général, nous avons tous la responsabilité d'accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ils cherchent souvent protection chez nous en raison de nos actions passées. Et oui, bien sûr, c'est un problème pour de nombreuses personnes en Allemagne. Mais il faut dire aussi que l'extrême droite surfe sur ces inquiétudes. Dans presque tous les pays européens, l'extrême droite gagne du terrain et je suis très inquiet de ce que cela signifie pour la prochaine législature au Parlement européen.
Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Laurence, jeune Allemand de 17 ans, sur les comptes des réseaux sociaux de notre partenaire Enter. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Restez avec nous, bien sûr, l'information continue sur RFI.